Ce matin, nous continuons dans la série que nous avons commencée, Réveille-toi, avec cette idée qu'on a besoin de se réveiller, que notre esprit a besoin d'être en alerte, que notre âme a besoin d'être en connexion avec Dieu. Et on le voit autour de nous, des fois on a l'impression qu'il manque un peu le pétillant de la réalité, et Dieu nous donne ce pétillant de la réalité. Dans les réveils, peut-être vous avez remarqué, il y a une constante quand on regarde à travers toute l'histoire de l'Église, c'est un retour à la Bible, un retour à la parole de Dieu. C'est le cas lors de la Réforme, mais c'est aussi le cas lors du réveil de Genève, par exemple. Et il y a une histoire dans la Bible qui nous est relatée d'un roi qui, tout d'un coup, a décidé de radicalement se tourner vers Dieu. Peut-être vous avez vu les enfants partir tout à l'heure. Alors les plus grands, ils ont à peu près cette taille. La plus grande, c'est ma fille, donc je sais qu'elle a 11 ans. Et je ne sais pas si vous vous imaginez de confier la responsabilité d'un royaume à un de ses enfants. Ça semble un peu absurde comme question. Peut-être que certains me voient venir. Et il y a eu, dans l'histoire d'Israël, un roi à qui on a confié des responsabilités, alors qu'il n'avait même pas 11 ans, il en avait 8. C'est assez étonnant de voir ça. Et on se dit, mais c'était complètement fou, complètement absurde, mais ça s'est bien passé. On y arrive tout de suite, je vais lire quelques passages de son règne. Et en fait, l'histoire d'Israël, à un moment donné, quand Dieu les délivre, il demande un roi pour être comme toutes les autres nations. Au début, ça se passe moyennement bien avec Saül. Il y a David qui est un roi exceptionnel. Salomon, c'est plutôt bien, le royaume prospère. Et puis après, alors par contre, ça fait vraiment des vagues, voire des chutes assez drastiques. Le royaume est divisé. Israël, le royaume du Nord, c'est complètement catastrophique. Ils se font déporter jusqu'à Babylone. Et puis, il reste Juda et Benjamin. Et en 2 Chroniques, on va lire quelques versets au chapitre 34. 2 Chroniques 34. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite, ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. Donc il a 16 ans quand il commence à chercher Dieu, et puis on a tout juste 20 quand il commence à entreprendre ses démarches. On démolit en sa présence les autels des Baals, et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu, et les réduisit en poussière, et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour. Il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées jusqu'à les réduire en poussière, et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Je m'arrête un petit moment dans la lecture, et c'est une démarche assez radicale. Et je me dis, pour ce jeune roi, ça a dû quand même lui demander beaucoup de confiance d'agir de la sorte. Parce qu'on peut supposer qu'à cet âge-là, il a encore un pouvoir qui est assez vacillant. Est-ce qu'il a tous les alliés politiques nécessaires pour entreprendre ce genre de réforme? Est-ce qu'il va recevoir le soutien de son peuple? Parce qu'en touchant aux idoles, bien sûr, il touche aux pouvoirs qui sont établis. Je parle donc des pouvoirs des hommes qui ont réussi à se construire tout un aura autour de leur religion. Il touche peut-être à des politiciens qui étaient tout à fait acquis à la cause d'un dieu ou d'un autre, et il va ébranler tout ce système-là. J'imagine que ça a dû lui demander beaucoup de foi. La 18e année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, Il envoya Saphan, fils d'Atsalia, Masedja, chef de la ville, et l'archiviste Joash, fils de Joachaz, réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Ils allèrent trouver le grand prêtre, Hilkija, et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Et donc, Josias souhaite aller plus loin et restaurer le temple. Alors pour cela, il sait qu'il y a de l'argent qui a été stocké dans le temple, et il va le faire chercher, il va dire, on va le confier aux Lévites, on va le confier aux constructeurs, et ils vont réparer le temple. Et un verset qui dit, on ne leur demandera pas de compte, parce qu'on sait qu'ils vont agir avec honnêteté. Je trouve ce petit verset assez incroyable, de se dire, Josias choisit de faire confiance en disant, mais s'ils travaillent pour Dieu, ils ne peuvent pas commencer à agir malhonnêtement. C'est aussi un grand acte de foi. Surtout quand on lit toute la Bible, on se dit, il avait vraiment confiance en Dieu. Et chose étonnante, quand ils vont chercher l'argent, ils vont trouver quelque chose de bien plus précieux. Vous savez, c'est un peu comme ceux qui se baladent c'est la rue du marché à Genève, là, il y a toutes les boutiques de luxe. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, il y a des rivières de diamants, il y a des rivières de rubis, enfin c'est juste, il y a ces boutiques absolument impressionnantes, vous savez, les gardes du corps qui sont là à l'entrée, et puis je ne sais pas si tout le monde peut entrer ou s'il faut montrer sa carte de crédit avant d'entrer. Puis vous traversez la rue comme ça, et tout d'un coup au bout de la rue, là vous pouvez trouver un véritable trésor qui est bien plus précieux que toutes ces perles. Vous arrivez à la maison de la Bible. Vous arrivez à la maison de la Bible, et puis là vous pouvez trouver la parole de Dieu. À travers tout ce qui est scintille, tout ce qui brille, tout ce que les gens cherchent à protéger, il y a une porte qui est grande ouverte. Vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de garde de sécurité à l'entrée. Vous pouvez entrer et vous pouvez acheter la parole de Dieu. Et là, derrière tout l'argent dans ce temple, il y a une découverte incroyable qui est faite. Il retrouve le livre de la loi. Alors, le grand prêtre donne ce livre à ses serviteurs. Et ils arrivent vers Josias. Tes serviteurs, donc quand ils arrivent vers Josias, ils lui disent, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, le prêtre Hilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Et là, on pourrait se dire, mais Josias, il va être réjoui. Finalement, il a entrepris des réformes, puis il va se dire, je suis dans le tir. C'est bon, je suis sur la bonne voie. C'est chouette, on va continuer dans cette direction. On va construire le temple et Dieu sera avec nous. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur, Asadja. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel. Ils ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. Et là, c'est bouleversant comme réaction. On se dit, mais ce jeune roi qui a cherché à suivre Dieu de tout son cœur, il découvre la loi et il fond en larmes parce qu'il réalise que malgré tout ce qu'il a fait, cela n'apaisera pas la colère de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que ça fait des générations qu'on est en train de pécher en Israël. Alors je vous rassure, je ne vais pas lire toute la loi, mais on peut imaginer qu'il s'agissait de la loi de Moïse. Est-ce qu'il s'agissait de tout le Pentateuque ou juste d'une partie? On ne sait pas exactement. Mais il y a à la fin de la loi un texte qui parle des bénédictions quand le peuple va suivre la loi et des malédictions quand il va s'en détourner. Maladie, famine, guerre et même jusqu'à la déportation dans un pays étranger. Et Josias devait certainement en être conscient, puisque Israël avait déjà été déporté. Et donc Josias, se repent profondément. Et puis il va faire consulter un prophète qui va recevoir une parole de Dieu. On va y revenir tout à l'heure, je garde un petit peu de suspense. Et ensuite, après avoir reçu cette parole de Dieu, il rassemble tout le peuple. Au verset 29, « Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. » Donc il rassemble tout le peuple et il décide solennellement de suivre Dieu. Et donc après cela, il va continuer sa réforme, il va aller encore plus loin. Là, on ne le voit pas dans les chroniques, on le voit dans le livre des Rois, en 2 Rois, chapitre 22 et suivant, on voit l'histoire de Josias. Et il continue sa réforme après la lecture de la loi. Et une chose qu'il va faire juste après, c'est qu'il va célébrer une Pâque, comme il est dit, il n'y en a jamais eu de pareil en Israël. Donc il se dit, mais la chose à faire après avoir entendu les paroles de la loi, c'est célébrer la Pâque. Peut-être, le texte ne parle pas comme ça, mais j'imagine quand même qu'il y avait cette idée qu'à la Pâque, il y a le pardon qui va être reçu, parce que l'agneau est sacrifié. Il rappelle aussi la sortie d'Égypte pour dire, mais Dieu a délivré Israël de ses oppresseurs, pourquoi ne le ferait-il pas encore une fois? Et il y a une Pâque absolument gigantesque, alors ils vont sacrifier des animaux à n'en plus finir, et ce sera une fête gigantesque et aussi un repentir très grand devant Dieu. Et donc voilà un petit peu l'histoire de Josias, et je la trouve interpellante, parce que en fait on voit que toujours, les hommes ont deux choix devant eux. Soit ils s'attachent à l'Éternel, soit ils construisent des idoles et des hauts lieux. Et qu'en fait, il n'y a pas tellement de chemin entre deux. Et quand il y a un chemin entre deux, c'est ce que semble quand même avoir pris et essayé de faire Israël, parce que Josias, il arrive, son père était un mauvais roi, son grand-père était un mauvais roi aussi, et il y a quand même une reste de connaissance de l'Éternel, puisque Josias décide de suivre Dieu. Mais c'est la cata. On ne peut pas servir l'Éternel et en même temps avoir tout plein d'autres dieux. Quand on suit Dieu, eh bien Dieu vient guérir nos cœurs, il vient nous remplir, il vient nous habiter. Il y a de nombreuses bénédictions qui sont là. Josias, il choisit spontanément de suivre Dieu. Et je crois qu'on le fait des fois aussi, on choisit de suivre Dieu et on essaie de faire du mieux qu'on peut pour suivre Dieu. Ça va le conduire à détruire toutes les idoles. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa façon de suivre Dieu n'a rien à voir avec ce que demande la loi. Enfin, n'a rien à voir, n'est pas complète, n'est pas suffisante. Et dans nos vies, nous avons besoin de retrouver la parole de Dieu, de recevoir son enseignement, de prendre au sérieux ce qu'enseigne la Bible. Et c'est seulement ainsi qu'on peut vraiment comprendre ce que Dieu nous demande. Et on aura eu beau faire de notre mieux avant, quand on se retrouve confronté à la parole de Dieu, on voit que c'est sans commune mesure avec ce que Dieu nous demande. Et je crois qu'il y a là vraiment une invitation ferme, solide, à lire la Bible régulièrement, à s'imprégner de la loi. Et quand je dis de la loi, bien sûr, comme Josias, mais il y a beaucoup de livres qui ont été écrits depuis Josias. Alors qu'on puisse les lire, s'en imprégner, les prendre au sérieux. Parce que autrement, qu'est-ce qui risque de se passer? On va suivre Dieu selon nos convictions, selon notre propre cœur, mais sans avoir l'assurance qu'on est vraiment en train de faire ce que Dieu nous demande. On va suivre un Dieu, en quelque sorte, qu'on aura façonné à notre image. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas nous qui façonnons Dieu à notre image, c'est Dieu qui nous a façonnés à son image. Et on a besoin d'une révélation particulière. On a besoin qu'il se révèle à nous, dans sa parole, en Christ. Et puis, si on ne le fait pas, très vite, on va tourner notre cœur vers des idoles. Les idoles, elles sont très nombreuses, elles prennent pas encore, c'est en train d'arriver, mais pas encore la forme de statues, de poteaux sacrés, de hauts lieux. Quoique quand on regarde comment les Bouddhas fleurissent un peu partout, on n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Mais certainement que l'argent est une idole qu'on va très rapidement suivre, parce qu'on se dit que derrière l'argent, eh bien, il y a le pouvoir, et derrière le pouvoir, eh bien, on va pouvoir réussir à atteindre nos objectifs. Il peut y avoir la connaissance, la technique, la science, qui offre aussi beaucoup de solutions à nos problèmes. Et quand on choisit cette voie-là, on le remarque assez rapidement, on trouve des solutions qui sont temporaires, des solutions qui nous déçoivent, des solutions qui amènent leur lot de problèmes, qu'on essaie de solutionner de la même façon avec la technique, et on sait que ça va amener son lot de problèmes aussi. Et nous avons vraiment besoin de retourner à Dieu. Ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a un Dieu qui est mentionné, spécialement, c'est Moloch, où les gens allaient sacrifier leurs enfants devant ce Dieu-là. On se dit, mais non, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout en train de sacrifier les enfants. Réfléchissons un petit peu comment notre société considère les enfants, comment, en tant que parents, on est invité à considérer nos enfants. Est-ce que, quand un enfant est conçu au mauvais moment, est-ce que on n'est pas parfois encouragé à dire, bon, une interruption de grossesse, ça permettra de mener à une vie normale, sympathique. Est-ce que quand on a des enfants, on n'est pas encouragé à les placer dans des structures pour pouvoir se donner corps et âme dans notre travail? Quel lien est-ce qu'il y aurait entre sacrifier le premier-né et notre rythme de vie actuellement? Nous avons vraiment besoin de retourner à Dieu parce que ça ne mène pas à la paix, ça ne mène pas au salut. Josias, son père a régné, je crois, 2 ans, ou très, très court, hein, après il y a eu un complot, il s'est fait tuer, c'est pour ça qu'il devient roi assez tôt. Son grand-père, Manassé, il s'est vraiment détourné de Dieu, et son arrière-grand-père a marché avec Dieu. C'était Ézéchias. Il y a aussi une grande réforme au temps d'Ézéchias et il a aimé l'Éternel. Et je trouve assez intéressant de voir qu'on est dans une société, finalement, on est un petit peu dans ce cas-là. Parce que si on regarde dans la génération de mes grands-parents, moi j'ai 35 ans, donc je vous laisse calculer l'âge de mes grands-parents, la plupart des gens à cette époque étaient chrétiens. Vous allez dire, c'était pas parfait, il y avait un christianisme social, tout ça. Je suis tout à fait d'accord. À l'âge de mes parents, le christianisme était encore très présent et la plupart des enfants suivaient le catéchisme. C'est un des signes, on voyait dans les églises réformées, ils avaient des classes de catéchisme. Dans ma classe, il y avait presque tout le monde qui avait fait le catéchisme. Et à ma génération, honnêtement, plus aucun parent n'envoie son enfant au catéchisme s'il n'a pas encore une foi vivante. Et les églises réformées, les églises catholiques, les classes de catéchisme sont vides. Et je me dis, mais on a besoin de ce retour à Dieu. On a besoin qu'il y ait une nouvelle révélation de qui il est. Bien sûr, on a l'idée de qui est Dieu, de qui est Jésus. Tout le monde sait qu'il est mort sur une croix et puis que les chrétiens adorent Jésus-Christ. On a vraiment besoin d'un retour. Quand Josias va consulter le prophète, en fait, c'est pas le prophète, c'est la prophétesse, c'est une femme. Elle lui dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je lis en 2 Chroniques 34, versets 23 et suivants. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants, conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient. Ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. Ça, c'est assez... le jugement, il est radical. Hein. Et on sait aujourd'hui que notre société, à un moment donné, elle sera détruite. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur toi, sur cet endroit et sur ses habitants. Une parole de condamnation, la société de cette époque est condamnée. Et d'ailleurs, après Josias, il ne va pas se passer beaucoup de temps avant que de gros ennuis, c'est-à-dire des guerres et la déportation, arrivent. Mais Josias va mourir en paix. Est-ce qu'il n'y a pas là une annonce d'avance un peu de ce que nous pouvons vivre avec Jésus? Quand on se repent du mal qu'on a fait, quand, si ça arrivait, une société se repent du mal qu'elle a fait, il y a une solution. Dieu n'est pas un Dieu qui veut nous punir, il est un Dieu qui veut nous sauver. Le malheur arrive, mais il y a une porte de sortie. Quand Josias le cherche de tout son cœur, qu'est-ce qui se passe? Il retrouve la loi. Mais étonnant. Mais est-ce qu'on ne peut pas y voir la main de Dieu qui va répondre au désir de son cœur en disant « Mais tu veux me suivre? Voilà comment il faut faire. » Et Josias poursuit son mouvement. Et Dieu lui dit « Mais ne t'inquiète pas, j'ai vu que tu t'es humilié. Le malheur ne t'atteindra pas. » Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il est venu nous faire échapper au malheur que notre propre péché a causé. Il est venu dire à tous les hommes, mais si vous m'aimez, si vous aimez Dieu, que vous repentez et que vous croyez en l'œuvre que j'ai accomplie, eh bien vous êtes sauvés. Ça, c'est le message que Jésus est venu annoncer. Il est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité. C'est facile à dire comme ça parce qu'on a 2000 ans de recul. Je pense que si on est là ce matin, c'est qu'on est tous au moins un petit peu convaincus de ça. J'espère même grandement convaincus de tout ça. Mais les disciples, quand c'est arrivé, ils n'ont pas tout à fait compris ce qui se passait. Ils avaient passé 3 ans avec Jésus. Ils avaient entendu tous ses enseignements. Ils avaient été prévenus que Jésus allait mourir. Et quand il est mort, bah, ils sont quand même tous partis. Alors oui, il y a bien des femmes qui sont allées dire, mais vous savez, le tombeau, il est vide maintenant. Mais... bon, ils auraient dû comprendre qu'il était ressuscité. Non, vous ne trouvez pas? Toute la Bible en parle. Ça aurait été logique. Mais non, ils n'ont toujours pas compris. Puis un jour, les disciples sont en train de marcher. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs et deux disciples. Et ils discutaient. Et tout d'un coup, il y a un homme qui s'approche d'eux. À nous, lecteurs, on sait que c'est Jésus. Ils voient juste un homme qui s'approche d'eux. Et il leur dit, mais... est-ce que je peux faire route avec vous? De quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Il leur dit, ah, mais on est en train de parler de cet homme qui est mort sur une croix. Tu n'as pas entendu parler de ça? C'était un prophète puissant en parole et en acte devant Dieu et devant tout le peuple. Puis il leur explique ce qui est arrivé. Il dit, il y a même des femmes qui sont venues nous dire que le tombeau était vide. Mais, et puis qu'elles avaient rencontré des anges, mais bon, on ne sait pas trop. Hein. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce que dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Ils arrivent au village, les disciples leur disent « Mais viens, on va retrouver des copains, viens manger avec nous, puis tu continueras à nous parler. » Donc, il y va. Et puis, quand ils sont à table, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquant les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompait le pain. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, de lire la Bible, d'un coup il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Et moi je trouve assez incroyable, des fois on lit la Bible, on lit l'Ancien Testament, le Nouveau, et puis il y a quelque chose qui bouillonne, et puis qui nous permet de comprendre à la fois qui nous sommes, comment notre société fonctionne, et quelle est notre destinée en Christ. Josias, quand il a lu la loi, il ne s'est pas dit « Bon, ça c'était bien pour David. Hein. Nous, on va faire les choses un petit peu différemment. » Parce que quand même, hein, il y a eu des progrès depuis David. Non, il prend la loi, puis il se dit mais quelle horreur! Comment je vais faire pour mettre en pratique cette loi? David, il n'a pas eu besoin de détruire toutes les idoles. Parce qu'il était dans un autre contexte. Et Josias, il se dit, mais la première chose à faire, c'est d'aller encore plus loin dans la destruction de ces idoles. Je pense que personne d'entre nous n'est le roi de ce pays. On ne va pas pouvoir aller détruire les idoles qu'on va croiser sur notre chemin. Je ne pense même pas que c'est l'appel que ce texte nous adresse. Je pense qu'il y a vraiment une invitation personnelle. Quelles sont les idoles que j'ai construites dans mon cœur? Quelles sont les idoles qui doivent être détruites? Et comment est-ce que Dieu va prendre cette première place? Bien sûr que parfois, la peur nous conduit à cette réflexion-là. Mais c'est finalement la confiance qui doit prendre le dessus. Parce que quand on entre dans cette démarche avec foi, ces mêmes paroles qui ont été adressées à Josias viennent nous interpeller. Jésus est venu pour nous pardonner et nous libérer. Et il va nous conduire sur le chemin. Il ne va pas nous laisser seuls. Josias, la première chose qu'il fait, il détruit les idoles, mais il va fêter la Pâque. Il va célébrer le Christ d'avance, ce qu'il a accompli. Nous, la première chose qu'on peut faire quand on est saisi de cette conviction, c'est de retourner à Christ, c'est de célébrer sa victoire sur la mort, de célébrer la Pâque qu'il a accomplie. Josias a eu besoin d'une révélation de Dieu. Et je crois, encore aujourd'hui, on a besoin d'une révélation, pas juste d'une révélation intérieure, d'une conviction profonde, mais d'une certitude, d'une parole prophétique, d'une parole qui donne un sens clair à nos vies. Et c'est une invitation à renouer avec la lecture de la Bible, à continuer avec foi. Vous savez, des fois, j'imagine que les Bibles sont des vieux livres poussiéreux qui sont posés sur des étagères. Pas dans tous les foyers. Je parle dans une église évangélique, en général, les gens, ils sont suffisamment invités à lire la Bible pour qu'elle ne soit pas pleine de poussière, leur Bible. Mais je crois même que parfois, les Bibles servent à caler les bibliothèques. J'aime bien cette image parce que ça fait un peu sourire, parce que quand on cale une bibliothèque, c'est bien souvent, pas juste contre le mur pour que ça tienne, mais vraiment dessous, là, parce qu'il y a un pied qui est trop court. Mais j'aimerais inviter à ce que ce soit le cas dans nos vies. Vous savez que on cale nos vies sur la Bible. Parce que finalement, c'est ça qui va donner la stabilité. Et tant qu'on n'a pas mis la Bible à la bonne place comme fondement dans notre vie, ben on sera toujours un petit peu branlant. Quand on est branlant, il y a des choses qui tombent, il y a des choses qui se cassent. Mais quand on est enraciné en Dieu, il y a une force qui est là, il y a une paix qui est là. Et Dieu, il éloigne nos ennemis loin de nous. Alors voilà pour ce matin, pour cette invitation à rester éveillé, à rester réveillé, à se réveiller si on a un peu trop endormi, sans aucune condamnation, parce que franchement, j'ai besoin d'être réveillé. Et cette invitation à relire la Bible, redécouvrir la Bible, lui faire confiance. Et Christ va venir mettre un feu en nous, va venir faire bouillonner nos vies. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ta venue. Nous te remercions parce que tu viens nous rejoindre sur notre chemin. Tu viens faire bouillonner en nous le livre de vie. Tu viens nous conduire par ta parole. Seigneur, peut-être que nous avons fait plein de bonnes choses dans nos vies. Nous avons cherché avec un cœur ardent à te plaire, nous avons besoin que tu te révèles à nous pour que nous sachions encore mieux comment marcher dans tes voies. Seigneur, si on vient vers toi, ce n'est pas parce que nous avons tout juste. On a peut-être fait des choses dans nos vies où on n'est pas fier, mais on sait que tu les as portées sur la croix. Et nous avons besoin de recevoir cette parole de paix, que le malheur ne va pas nous frapper parce que tu es avec nous. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous offres en Jésus-Christ. Amen.